Phaéton, dont le feu dévore la blonde chevelure, roule en se précipitant et laisse dans les airs un long sillon de lumière, semblable à une étoile qui, dans un temps serein, tombe ou du moins paraît tomber du haut des cieux. Loin de sa patrie, dans l'hémisphère opposé, le vaste Éridan le reçoit dans ses ondes et lave son visage fumant. Les naïades de l'Hespérie recueillent dans un tombeau son corps où fume encore la triple foudre qui l'a frappé et gravent ses vers sur la pierre. Ici gît Phaéton, conducteur du char de son père. S'il ne put le gouverner, il tomba du moins victime d'une noble audace. Son père, plongé dans la douleur, couvrit son front d'un voile de deuil. S'il faut en croire la renommée, un jour s'écoula sans soleil et sans autre clarté que les lueurs de l'incendie, et ce désastre eut alors son utilité. Climène exhale d'abord toutes les plaintes qu'un si grand malheur peut inspirer. Puis, en habit de deuil, éperdue et se meurtrissant le sein, elle parcourt le monde entier. Elle cherche les restes inanimés, ou du moins les os de son fils. Elle ne trouve que ses os ensevelis sur une rive étrangère. Là, prosternée, à peine a-t-elle lu son nom gravé sur le marbre, qu'elle arrose le marbre de ses larmes et le presse sur son sein nu, comme pour réchauffer les cendres qu'il renferme. Pénétrée d'une aussi vive douleur, les sœurs de Phaéton offrent à sa mort le vain tribut de leurs sanglots et de leurs larmes. Elles se frappent la poitrine, et bien que Phaéton ne puisse entendre leurs plaintes lamentables, elles l'appellent nuit et jour, et reste prosternée sur son tombeau. Déjà Phébé avait 4 fois renouvelé son croissant, les filles du soleil, suivant leur coutume, car leur douleur était devenue une longue habitude, faisaient entendre des gémissements, lorsque Phaétuse, la plus âgée des Héliades, voulant se jeter sur le marbre, se plaignit de l'engourdissement de ses pieds. Empressée d'accourir auprès d'elle, la belle Lampétie se sent tout à coup enchaînée à la terre par des racines naissantes. Une troisième, au moment où sa main veut arracher ses cheveux, ne détache plus de sa tête que des feuilles. L'une se plaint de ses jambes changées en un tronc immobile, l'autre de ses bras allongés en rameaux. Tandis qu'elle s'étonne de ce prodige, l'écorce enveloppe leurs flancs et par degrés emprisonne leurs seins, leurs épaules, leurs bras. Leurs bouches seules restaient encore libres et appelaient leur mère. Leur mère, que peut-elle, hélas? Si ce n'est de courir çà et là où son trouble l'emporte, et pendant qu'il en est temps encore, d'unir ses baisers à ceux de ses filles. C'est trop peu. Elle essaie de les arracher au tronc qui les enchaîne, et de briser avec ses mains leurs rameaux naissants, mais il en tombe des gouttes de sang comme d'une blessure. Arrête, je t'en conjure, ô ma mère! S'écrie chacune d'elles, en se sentant blessée. Arrête, je t'en conjure! En déchirant cet arbre, c'est notre corps que tu déchires! Adieu! L'écorce s'élève sur ses dernières paroles. De cette écorce, leurs larmes coulent encore. Elles distillent en perles d'ambre de leurs jeunes rameaux et se durcissent au soleil. Les ridans les recueillent dans ces eaux limpides et les portent aux dames du Latium qui en font.